Chapitre 3 Les cathédrales ouvertes. Guillaume ! S'écria Régine en lâchant son guidon d'une main. Elle s'interrompit hésitante. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son nom de baptême. Ils furent alors tous quatre très étonnés de constater qu'ils adoptaient encore des manières cérémonieuses malgré leurs relations anciennes. Madeleine approuva son amie. « Oui, tu as absolument raison, nous sommes stupides avec nos messieurs et nos madames. Moi, ça ne me gênera pas du tout d'appeler ton mari Pascal. » Régine reprit le doigt tendu. « Vous voyez, Guillaume, le village qui est tout là-bas, tout là-bas ?»«
Oui, oui, c'est là que nous allons déjeuner. »«
Eh bien, parions que j'y serai avant vous. »
Elle jeta son mouchoir à terre. D'Arjols dut faire demi-tour et descendre. Quand il dépassa l'autre couple, Régine était déjà loin, forme fuyante dont les mouvements devenaient indistincts. Madeleine et Pascal restèrent seuls. Ainsi s'effectuaient toutes les étapes depuis 5 jours qu'on s'était mis en route vers la Bretagne. Ils avaient traversé la Seine au Havre, puis, délaissant les plages, ils erraient sur la foi des guides et de vagues renseignements, en quête de ruines, de forêts et de sites pittoresques. Ils ne se surmenaient point. Le matin, 2 ou 3 heures, de même à la fin de la journée, sans hâte, sans programme. Le plus léger symptôme de fatigue motivait une halte, le moindre prétexte des stations interminables. Tout de suite, l'habitude fut définitive. Chacune des dames eut le mari de son amie comme cavalier servant, comme mécanicien pour le réglage et le nettoyage, comme manœuvre pour conduire la machine dans les montées, comme domestique pour porter le manteau et le nécessaire de toilette. Cela s'établit tout naturellement. On partait toujours ensemble, mais on n'arrivait jamais que 2 par 2. Guillaume et Régine filant en général comme des fous, Madame d'Arjols et Fauvière se contentant d'une allure modérée. Ils les apercevaient pour l'heure, tels 2 points de plus en plus petits et de plus en plus rapprochés l'un de l'autre. Puis un repli de terrain les leur cacha. « Madeleine !» balbutia Pascal. « Cela me paraît étrange de vous appeler Madeleine. »«
Et pourquoi donc, Pascal ?»
« Oh, je ne sais pas. Les noms semblent toujours nouveaux, la première fois que l'on s'en sert à l'égard d'une personne. »« Madeleine, oh, quel nom de douceur et de tendresse !» Ils se turent. C'était d'ailleurs un plaisir dont ils commençaient à sentir le charme, que ce silence profond où ronfle le bruit sourd des pneumatiques et où la chaîne déroule indéfiniment son murmure monotone. Il s'en dégage une griserie singulière qui clôt les bouches et engourdit le cerveau. Pascal ralentissait alors pour admirer la grâce de sa compagne. Un peu incliné sur le guidon de manière à utiliser ses bras, la taille indécise dans son veston droit, elle avait une silhouette mâle qu'atténuait l'harmonie de ses gestes. Des culottes bouffantes laissaient libre le bas de sa jambe qui s'effilait jusqu'à la pointe des pieds pour suivre le jeu de la pédale. Il aimait sa marche souple et forte, appréciable surtout le long des côtes, qu'elle gravissait d'un mouvement égal, la tête courbée, avec l'air d'une personne qui s'applique. À la regarder, il lui venait des comparaisons qu'il n'osait formuler, tant il redoutait qu'elle ne parût exagérer et niaise. Pour cela, et pour d'autres ferments d'enthousiasme qui le travaillaient, il devait se contraindre, par peur du ridicule, à une surveillance pénible sur lui-même. Quand parfois il était sur le point de s'abandonner, une sorte de timidité qui croissait avec ses nouveaux besoins d'expansion lui défendait toute parole. Alors il la quittait des yeux et, comme un voile merveilleux, restait en lui un souvenir de grâce et d'allégresse à travers lequel il voyait les choses du dehors. Le soleil se faisait assez âpre quand des maisons éparses annoncèrent le village. Mais à l'entrée, un spectacle bizarre les arrêta. Des groupes de gamins, de paysans, se tenaient ébahis et immobiles devant Guillaume, qui, face à eux, les haranguant d'un ton de batleur, tendait derrière son dos, au bout de ses bras écartés, une vaste couverture de cheval. Ce rempart improvisé dissimulait une fontaine publique que l'on devinait collée au mur à l'angle des deux maisons. De là jaillissaient des exclamations et des éclats de rire. Encore quelques bêtises de Régine, marmotta Favière avec inquiétude. Guillaume les appelait. Vite, vite, elle a besoin de vous. Ils accoururent, mais Régine protesta. On n'entre pas, on n'entre pas, je ne suis pas visible. Chacun de son côté, ils soulevèrent un coin du voile et la virent alors, sa veste enlevée, qui se lavait à grande eau dans la cuve de pierre. Les épaules émergeaient de la chemise échancrée. Sur les bras nus, sur le cou, un signe de bronze versait de l'eau claire et fraîche. Des gouttes se jouaient sur la peau blanche, se croisaient comme de petites bêtes à traînées luisantes et en curieuses, se perdaient dans les profondeurs confuses. « Mais ça, tu es folle !» s'écria Pascal furieux. Elle se releva, toute souriante, à travers ses cheveux mouillés. « Pourquoi folle ? Bon, j'étais en âge, j'étouffais, et rien n'est sain comme l'eau froide. Après tout, cet endroit vaut n'importe quel cabinet de toilette. « Merci, Guillaume, vous êtes un amour. »«
Allons, Pascal, » implora Madeleine en frictionnant vigoureusement son ami. « Ne la grondez pas, c'est une petite fille qui ne sait pas ce qu'elle fait, mais qui fait toujours de jolies choses. Regardez-la. »
Il y avait à l'auberge une charmille touffue. Ils y déjeunèrent. Comme les autres fois, ils s'entretinrent des mêmes sujets, les hommes parlant sport et questions de cercle, les femmes chiffons et potins du monde. Cependant, ils n'en causaient plus avec la même gravité, avec cette sorte de conviction qui prouve l'importance unique que l'on attache aux phrases énoncées. Non, ils bavardaient plutôt pour se soulager en paroles de tout ce qui débordait en eux. Une gaieté jeune les stimulait. Ils retrouvaient leur rire d'enfant, ce rire qui n'a d'autre raison que lui-même. Pascal perçut ce changement.
« On croyait qu'il y a des mois que nous avons quitté Paris. Nous avons perdu contact. Nous ne sommes plus du tout parisiens. »«
Moi, je ne me reconnais pas, » avoua Madeleine. « Je n'aurais jamais pensé que je consentirais à porter ces horribles culottes et que je m'y trouverais très bien. »«
Et moi, » dit Régine, moi qui me plonge la tête dans les fontaines publiques et qui me montre, après, sans m'arranger, et dire que ça ne me gêne pas et que je suis tout à fait à l'aise. Et se lever à 7 heures et être prête à 8, hein, Régine, 1 heure pour sa toilette. Et se coucher à 9 heures surtout. Et transpirer, être sale, avoir la peau cuite par le soleil, jamais d'ombrelle. Des gants, pas toujours.
Et pas de corset, renchérit Régine. N'est-ce pas, Madeleine, que je n'ai pas de corset? Ton mari prétend que j'en ai un. Tenez, je vais vous.
Elle se serait dévêtue si on en avait empêché. Il fallut cependant que Guillaume lui palpât les hanches et confessa son erreur.
Moi non plus, je n'en ai pas, avoua simplement Madeleine.
Aussitôt elle rougit, car elle vit que les yeux de Pascal se dirigeaient vers son buste. Autour d'eux, un verger paisible les conviait. Quand ils s'y furent reposés, ils se remirent en marche. Un tissu de voile léger tamisait les rayons du soleil. Après 1 heure de silence, comme Darjol et Régine disparaissaient dans le lointain, Pascal s'écria tout à coup:
Oh, la bonne vie de hasard et d'imprévu! La bonne vie si pure et si nouvelle! Cela devient passionnant de vivre!
Oh, comme c'est bon d'être heureux pour la seule raison que l'on vit. C'est un bonheur toujours à portée de notre main. Il n'y a qu'à simuler en soi le sens de la vie et l'on est heureux. Heureux, noblement, largement, en toute justice et en toute certitude. Et c'est à elle que nous devons cela, à cette petite chose d'acier. Ayons-lui de la reconnaissance. Il y en a elle des trésors de joie et de bienfaits que je commence à soupçonner. Elle nous donne l'illusion des grandes époques aventureuses où l'on errait à travers le monde, maître de soi, sans autre ressource que soi. On est libre, on est fort. On se sent l'âme d'un conquérant solitaire, d'un paladin intrépide. On voudrait trouver des torts à redresser, des monstres à combattre. Ce flux de paroles avait jailli de lui comme une source qui crève la terre et qui s'échappe. Il y avait des jours, des années qu'il la refoulait et qu'il l'étouffait, cette source généreuse. Mais elle venait de rompre les obstacles, enfin, et il avait parlé d'un élan impétueux et irrésistible. Madeleine l'observait, stupéfaite, qu'il prononça de tels mots et d'une voix si ardente. Il continua, un peu interdit lui-même. « Mais nous sommes changés, nous le sommes plus que vous ne le croyez, et je ne dis pas cela parce que nous nous levons et nous nous couchons plus tôt, mais en vérité, croyez-vous que nous sommes les mêmes êtres qu'autrefois à Paris ?»« Non, expliquez-vous, Pascal. » Je ne sais pas m'expliquer. Je ne sais pas même ce que je ressens. Et cependant, pourquoi est-ce que je parle ainsi? Pourquoi ce besoin de parler comme je n'ai jamais parlé? Pourquoi des phrases se forment-elles en moi avec une sorte d'éloquence intérieure qui peut à peine s'exprimer et qui me fait mal? Ils s'assirent au bord d'un fossé où de l'eau fidèle reflétait l'image d'un saule. « Il me semble, reprit-il, que j'étais jusqu'ici emprisonné dans une enveloppe de verre et que c'était au travers de cette enveloppe que me venaient les spectacles du dehors, les bruits, les parfums, tout s'affaiblit, refroidit, pour ainsi dire. Et on dirait maintenant que ce verre se casse morceau par morceau et que les sensations m'arrivent, directes, chaudes, douloureuses presque. Des parcelles de ma peau sont plus sensibles, d'autres vont le devenir, j'en suis certain, d'autres encore restent dures et impénétrables. » Elle ne comprenait pas. Il se montrait sous un jour si différent qu'elle ne pouvait reconnaître cet homme d'ordinaire réservé, taciturne, et somme toute à peu près pareil à tous ceux de son monde. Elle le trouvait bizarre et l'écoutait à la fois curieuse et gênée. Lui non plus ne comprenait point. Il eût voulu se taire, il se jugeait ridicule, pourtant il continua. « Je pensais à cela tantôt dans le verger. Je ne sais trop si je rêvais, à moitié assoupi. Oui, je crois que je rêvais. Dans mon rêve, des choses, des êtres venaient frapper à l'enveloppe de verre dont je vous parle, et parmi ces êtres... Je vous ai reconnu, Madeleine.
Moi?
Vous, Madeleine? Vous, comme c'est drôle, n'est-ce pas?
Oui, comme c'est drôle, répondit-elle toute troublée.